This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jazzons l'histoire, quand le jazz retrouve ses repères, une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier. Alors nous entamons le cinquième épisode de cette évocation de l'année 1963. Et cette année-là, les grandes puissances signent le traité de Moscou d'interdiction des essais nucléaires dans l'atmosphère, l'espace ou la mer. La France, au passage, refusera de signer ce traité. Le général de Gaulle, sensible aux problèmes d'équilibre internationaux, préférera poursuivre les essais nucléaires qui permettront à la France d'obtenir la bombe atomique et auquel cas, à ce moment-là, quelques années plus tard, il signera le fameux traité en question. Moscou et Washington sont, cette année-là, reliés par le téléphone rouge entre la Maison-Blanche et le Kremlin. La Croix-Rouge internationale se voit attribuer le prix Nobel de la paix. Alfred Hitchcock présente les oiseaux et fait frissonner le monde. Et Jean-Luc Godard présente le mépris. Mépris, dont la musique est signée Georges Delerue, musicien français, émigré aux États-Unis. Et c'est un film qui marque la fin d'une première carrière de Jean-Luc Godard. Un film produit internationalement, on pourrait presque dire un film hollywoodien de Jean-Luc Godard, puisque on y trouve des acteurs français, notamment Brigitte Bardot, bien sûr, Michel Piccoli, mais aussi des acteurs américains comme Jack Palance. Et on y voit, pour les amateurs de cinéma, quelques années avant sa mort, le grand cinéaste allemand puis américain Fritz Lang. Ce film témoigne du mélange, de la mondialisation d'une certaine façon du cinéma, puisque certains cinéastes français, certains musiciens comme Georges Delerue vont travailler à Hollywood et donc réaliser des films mixtes avec des coproductions franco-américaine ou européano-américaine. Mais le cinéma n'est pas la seule similitude qui relie l'ancien continent et le nouveau, et la ségrégation qui sévit un peu partout est particulièrement virulente aux États-Unis. Après la marche de Washington, la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis redouble. Des émeutes continuent à avoir lieu dans de nombreux États, notamment l'Alabama, dont le gouverneur a laissé un sinistre souvenir. Il s'appelait George Wallace et il refusa la non-ségrégation à l'université. Il fallut l'intervention du président Kennedy pour réintégrer des étudiants noirs à l'université de Birmingham. Le 15 septembre de cette année-là, quatre fillettes de couleur sont déchiquetées par l'implosion d'une bombe dissimulée dans le sous-sol d'une église baptiste. John Coltrane a toujours revendiqué sa négritude. Il a toujours été fier d'appartenir à la communauté noire. Profondément marqué alors par un tel acte de barbarie, il compose un thème au lyrisme triste, Alabama, d'autant plus pénétrant et émouvant qu'il est dépourvu de vengeance.
Thank you.
Alabama, donc, une longue mélopée en hommage à ces quatre enfants tués au cours des émeutes raciales à Birmingham. Je vais revenir un petit peu sur John Coltrane parce que c'est probablement, je disais l'autre jour que Charlie Mingus était l'un des 10 meilleurs musiciens de jazz, en tout cas de ceux qui ont marqué le jazz, mais Coltrane fait partie aussi de ces 10 musiciens, probablement avec encore plus d'impact. Parce qu'il a, on pourrait dire que Coltrane a donné au jazz une profondeur, musicale et sociale peut-être aucun autre n'avait réussi à lui donner. C'est un musicien qui a toujours revendiqué ses origines, son appartenance avec beaucoup de vigueur et qui a toujours essayé de traduire cette appartenance dans sa musique, un peu à la façon de Mingus. Mais en allant probablement beaucoup plus loin. 63, c'est une année charnière, parce qu'il a, en 1960, il est arrivé à une formule de quartet, qui est la formule apparemment qu'il a trouvée, qui est idéale pour lui. 63, c'est donc cette année-là où les choses deviennent extrêmement aiguës en termes de vie quotidienne pour les musiciens noirs. Et en 64, il va composer Crescent et surtout Love Supreme. Love Supreme qui est une des œuvres, peut-être une de ses œuvres majeures et qui aura énormément de succès puisque en 64, cette composition obtiendra un prix, sera signalée dans Downbeat, enfin, aura un succès absolument phénoménal. Après, disons que les inspirations un peu spiritualistes de Coltrane l'emmèneront vers des musiques, disons, plus orientales, avec une inspiration indienne. Il avait une immense admiration pour Ravi Shankar. Et dans quelques morceaux, ça s'entend quand on l'écoute attentivement. Alors, on dit souvent qu'il est le fondateur du free jazz. C'est vrai et c'est faux, car il est probablement jamais allé aussi loin que certains autres, comme Cecil Taylor par exemple, et il a toujours gardé ce son, cette suavité du son qu'on en entendait ici avec le saxo ténor et que l'on va entendre dans beaucoup d'autres morceaux sur l'ensemble des hanches de cuivre, c'est-à-dire soprano, ténor. Bon, il jouera quelques fois très peu du baryton, mais surtout soprano et ténor. Cette année-là, 63, c'est aussi un tournant pour lui parce qu'il se sépare de son épouse avec laquelle il a vécu 9 ans. Elle s'appelle Naïma. Il a donné son nom à un morceau absolument sublime que nous ne passerons pas aujourd'hui, mais qu'on passera une autre fois, et qui n'a pas pu lui donner d'enfant. On dit que c'est pour cette raison qu'il se sépare. Et il va épouser une femme musicienne. Elle s'appelle Alice MacLeod. Elle deviendra donc Alice Coltrane et elle jouera un rôle absolument essentiel dans la dernière partie de sa carrière puisqu'elle est musicienne. Elle joue de la harpe et elle sera associée à bon nombre de ses compositions. C'est une année 63 où a lieu un très grand festival, celui de Newport. Au cours de la semaine, on a vu que le pianiste Martial Solal y avait été programmé. Eh bien, John Coltrane y est programmé aussi avec un morceau fétiche, My Favorite Things. My Favorite Things, donc de John Coltrane en quartet au festival de Newport 63. C'est ce quartet qui servira de base à tout l'essor de la carrière de Coltrane. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, je disais tout à l'heure, c'est un musicien engagé. C'était presque, on pourrait dire, un musicien militant, mais militant par la musique et dans la musique. il disait toujours que dès qu'il avait composé quelque chose, il avait envie de composer autre chose. Et presque, on pourrait presque aller jusqu'au paradoxe de dire qu'il voulait faire le contraire de ce qu'il venait de faire et sans arrêt se renouveler. Il y a laissé son existence puisqu'il est mort très jeune de maladie. C'est un musicien qu'il conviendrait de redécouvrir parce qu'on a peut-être trop gardé le souvenir d'un musicien de free jazz, ce qu'il n'était pas et qu'il n'a jamais revendiqué, mais que d'autres ont revendiqué pour lui, et qui reste quand même l'un des maîtres à la fois de l'instrument, du saxophone, ténor, et ici il joue du soprano, et de l'écriture musicale qui est allée bien au-delà de ce qu'avait découvert le jazz à ses débuts. Alors, à propos de My Favorite Things, dont il a donné une multitude de versions, il explique à propos de ce morceau ceci. Cette valse, dit-il, de Rodgers et Hammerstein, lorsqu'on la joue lentement, elle a un côté gospel, qui n'est pas du tout déplaisant. Lorsqu'on la joue rapidement, elle possède aussi certaines qualités indéniables. C'est très intéressant à découvrir, un terrain qui se renouvelle sous l'impulsion qu'on lui donne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous ne jouons pas ces airs toujours sur le même tempo. Alors à signaler là que dans cette version, le quartet est donc composé, comme à l'habitude, de McCoy Tyner au piano, Jimmy Garrison à la basse. Il aurait dû y avoir Elvin Jones, comme on le dit le plus souvent, mais en réalité, ce jour-là, Elvin Jones était malade. Et c'est, il était malade, il se faisait désintoxiquer. Et c'est Roy Haynes qui a pris la batterie, ce qui donne, j'espère que vous l'aurez entendu, une version très particulière avec un jeu de batterie, sachant que Roy Haynes était un musicien très moins puissant probablement que Elvin Jones, qui pousse moins le quartet, mais qui donne une sorte de commentaire rythmique à l'improvisation, notamment l'improvisation de McCoy Tyner qu'on entendait intégralement dans cet extrait. Voilà, alors, le jazz en est à ça. 63, c'est la maturité, c'est l'explosion de beaucoup de... les années 60, on va dire, de beaucoup de musiciens. Mais c'est aussi l'arrivée, 63 précisément, d'un nouveau courant, une sorte de mélange de soul et de jazz avec un tempo assez lancinant. C'est l'arrivée d'un musicien aussi, d'un trompette, il s'appelle Lee Morgan, et il va publier à la fin de l'année, en décembre 63, un morceau dont je ne vous donne pas le titre, j'espère que la plupart le reconnaîtront. We'll be right back. Voilà, vous aurez reconnu The Sidewinder, enfin je l'espère, le serpent à sonnette. La traduction, alors c'est, je ne sais pas si c'est la fascination du serpent dont il s'agit dans ce morceau. En tout cas, c'est à mi-chemin entre ce qu'on appelle le soul jazz et puis qu'on appellera plus tard le boogaloo jazz. Enregistré le 21 décembre 1963 pour la marque Blue Note. Donc Lee Morgan à la trompette, John Anderson au saxophone ténor qu'on entendait longuement dans son improvisation, Barry Harris au piano, Bob Cranshaw à la basse et Billy Higgins, le merveilleux Billy Higgins, à la batterie. Alors c'est un long blues de 24 mesures, très simple, mais simplement l'idée de base c'est que la rythmique se prolonge tout au long du morceau et sous les différentes improvisations, ce qui lui donne ce côté un peu lancinant et donc serpent à sonnette. La semaine prochaine, nous verrons une autre année, mais bien évidemment, c'est tout à fait une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.